Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h ici à Bamako, même heure à Sikasso, Badiangara et Kaya. Tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La rentrée scolaire 2023-2024 a été fixée au 2 octobre 2023 par le gouvernement. Pendant ce temps, les écoles restent occupées par des déplacés à Badiangara. La grogne sociale persiste dans le secteur de l'éducation et de la santé malgré la signature du pacte de stabilité sociale. Le premier détenteur africain du ballon d'or Salif Keita di Domingo a été inhumé cet après-midi à Bamako. Que retiennent les amateurs du football de l'homme à suivre dans ce journal à la présentation Adama Amadou Haïdara, la partie technique Fili Dambélé. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 2 octobre prochain. L'annonce de cette décision par le gouvernement intervient dans un contexte où le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter dans la ville de Badiangara. Ces déplacés, pour la plupart, sont logés dans des écoles. Cette situation préoccupe les responsables scolaires et les déplacés de la région. Le point avec Assetou Kanté avec la contribution de notre correspondant à Badiangara.
À moins d'un mois de la rentrée scolaire 2023-2024, l'inquiétude se lit sur le visage des déplacés qui sont logés dans les établissements scolaires dans la ville de Badiangara. Le représentant des déplacés, Hama Tapili, affirme que des tractations sont en cours avec les autorités.
On nous a demandé de nous installer ici en attendant la rentrée scolaire. Après, ils nous ont donné des tentes pour aménager le site. Ces tentes sont insuffisantes. On attend donc le reste pour construire notre site.
De leur côté, les responsables du centre d'animation pédagogique de Badiangara sont aussi à pied d'œuvre afin de permettre une bonne rentrée scolaire. Lamine Traoré, directeur du CAP de Badiangara.
L'affluence, bien sûr, des populations déplacées, ça donne lieu à réfléchir. Je voulais que ma rencontre les autorités communales et administratives par rapport aux moyens que nous allons user pour préparer cette rentrée scolaire.
Il faut noter que plus de 300 déplacés venus de Bodjo, Tegri et Sogou sont logés dans les deux grandes écoles de la ville de Badiangara.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comme annoncé dans le sommaire, les grèves continuent dans les secteurs de l'éducation et la santé, malgré la signature du pacte de stabilité sociale. Seul le service minimum est assuré à l'hôpital Gabriel Touré, en grève depuis 72 heures. Au même moment, les enseignants de la faculté des sciences et techniques et l'Institut des sciences appliquées sont aussi en arrêt de travail. Les détails avec Draman Meïga.
L'arrêt de travail de 5 jours entamé à l'hôpital Gabriel Touré depuis ce lundi continue. Selon les syndicalistes du secteur de la santé, cette grève concerne la plupart du personnel au niveau de cet établissement. Aucune négociation n'est engagée avec les autorités, a indiqué Jimmy Kanté, porte-parole des travailleurs grévistes. Selon lui, la grève va continuer sur plusieurs semaines jusqu'à la satisfaction de leurs doléances, dont le paiement des retenues sur salaire d'une grande partie du personnel. En plus de la santé, le secteur de l'éducation n'est pas épargné. L'arrêt de travail des enseignants de la faculté des sciences et techniques et de l'Institut des sciences appliquées prend fin ce mercredi soir à minuit. Par contre, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la dite faculté menace d'aller encore à une autre grève de 72 heures à compter du jeudi 7 septembre. Il exige l'éradication de l'insécurité au sein de l'établissement. Ces grèves interviennent quelques jours après la signature d'un pacte social le vendredi 25 août dernier. Un document qui a pour objectif, selon les autorités, de faciliter l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique.
Jeunesse et citoyenneté, village des opportunités et mobilisation des compétences, ainsi que sport citoyen, ce sont les trois axes du département de la jeunesse et des sports. Ils ont été expliqués hier par le ministre de la jeunesse et des sports à la suite d'une conférence de presse. Par ailleurs, Abdoul Kassim Fomba a aussi annoncé le lancement ce dimanche 10 septembre 2023 à la place de la Nation d'une marche de 5 km. Il est au micro de Moussa Malé.
Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté. Vous avez dû remarquer la mise en place de ce qu'on a appelé la brigade citoyenne. C'est un groupement informel de jeunes que nous avons mis en place et qui sont mis à la disposition des collectivités. Le volet 2, village des opportunités. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'un des gros problèmes au niveau de la jeunesse, c'est vraiment l'économie. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'accéder à des financements. Donc comment on peut mettre en place des systèmes pour faciliter le financement au Mali? Comment les mettre à la disposition d'autres jeunes qui n'ont pas les moyens. Et le volet 3, ça c'est par rapport au sport citoyen. On a une quarantaine de disciplines. Comment donner de la visibilité à ces disciplines-là? Lorsque on leur donne de la visibilité, on les aide à se professionnaliser, il y a des sponsors qui vont s'intéresser.
À l'intérieur du pays, à Dioïla, les autorités communales regrettent le non-paiement des taxes et impôts par les populations de la dite ville, pendant que les 23 villages que regroupe la région payent chaque année leurs cotisations à hauteur du souhait. La ville de Dioïla est la seule qui peine à atteindre les 50% du paiement de ces taxes, selon la mairie. Ali Sissi.
On constate que c'est dans les villes que les gens s'abstiennent de payer les taxes et impôts, s'indigne le maire de la commune de Dioïla. Pour Yacouba Mariko, cette situation est inquiétante.
Le paiement des vignettes, le paiement des petites taxes, des TDRL, on rencontre d'énormes difficultés dans la ville de Dioïla. Les villages qui sont à plus de 50-60% étaient même fâchés d'apprendre que la ville de Dioïla n'avait pas encore atteint 10%.
Les résidents de la ville refutent ces allégations. Selon eux, l'abstention des populations à payer les taxes et impôts relève de la responsabilité des services techniques en charge de la question.
Si les habitants de la ville ne payent pas les impôts, c'est la faute aux agents de la mairie chargés de recouvrement. Sinon, chaque membre d'une famille devrait savoir qu'il doit payer les impôts.
C'est un problème de gouvernance. Je pense qu'ils doivent faire d'abord un travail technique, recenser ceux qui sont déjà là, car aujourd'hui on est là dans le cadre du développement communautaire.
Le taux de recouvrement des taxes et impôts dans la ville cette année tourne autour de 8% selon l'élu communal. Ce taux était de 10% en 2022. Pour Studio Tamani.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagné de ses collaborateurs, a visité ce lundi 4 septembre 2023 l'usine Fermali. Il s'agissait pour Moussa Alassane Diallo de s'enquérir des conditions d'exploitation, mais aussi s'assurer du respect des normes de qualité et de protection de l'environnement. Un reportage signé Sita Sidibé.
Sur place, le ministre a tenu à faire le tour des ateliers. Il a surtout observé les ouvriers au travail pour s'imprégner du processus de production. Moussa Alassane Diallo a insisté sur le respect des normes.
Notre pays a connu ces derniers temps l'effondrement d'immeubles ou de maisons en construction ou construites, entraînant des dégâts matériels et financiers extrêmement importants. C'est pourquoi le département a instruit à la Direction générale du commerce de conduire un vaste programme de contrôle et de vérification du diamètre et de la longueur des fils dans toutes les unités de production de fer et sur l'ensemble du territoire national.
Sidiki Doukouré, directeur général du Fermali, a pour sa part salué la démarche du ministre avant de s'engager à respecter les normes de fabrication.
Comme le ministre vient de le dire, un jour il nous a surpris pour le contrôle national. Le contrôle national a montré que notre fer à béton est en bonne qualité par rapport aux autres. En fabriquant les bonnes qualités de fer pour les Maliens, c'est notre souhait.
Une deuxième phase de contrôle est prévue en octobre dans les usines de production. Selon les ministres, toute usine qui ne respecte pas les normes de fabrication sera automatiquement fermée.
Les amateurs du football à Kai, Sikasso et Badiangara rendent hommage à Salif Keita, affectueusement appelé Domingo. L'international du football malien a tiré sa révérence ce samedi 2 septembre à Bamako. Que retiennent les amateurs du ballon rond de l'homme? Les réactions dans la rubrique « On en parle ».
Ce que moi je retiens de Salif, un très grand joueur qui a tout donné au football, mais qui n'a pas eu l'estime qu'il aurait dû avoir.
J'ai connu Salif sur le terrain, je l'ai connu aussi à la maison. C'est un homme sage, Salif, plein d'expérience.
Je retiens de lui d'abord un grand patriote. Salif a refusé la nationalité française parce que pour lui-même, il ne savait pas comment expliquer ça aux Maliens.
Keita est l'un des plus grands footballeurs que je n'ai jamais entendu parler au Mali. C'est le premier ballon d'or africain.
J'ai aimé être Salif Keita, mais j'ai pas pu.
Dans le temps, quand l'équipe du Mali jouait contre l'équipe de Guinée, le terrain était bien rempli. Les jeunes venaient voir seulement Salif Keita et Petit Sourd. C'était les deux vedettes en ce moment.
La perte de Salif Keita, c'est une perte énorme pour le football malien.
On continue avec les rubriques. Zoom Sur s'intéresse aujourd'hui aux amoureux des jeux de cartes. Ils sont considérés par certains comme des drogués des cartes, des gens ayant une addiction pour ces jeux. Lale Tangara nous en parle.
Je ne peux pas faire une journée sans jouer à la belote. Ça me rend malade.
s'exprime en ces termes, Ousmane, un amoureux des jeux de cartes. Rien ne peut l'empêcher de jouer une partie de belote, même pas la méforme. Presque connu de tous, Ousmane n'hésite pas à faire le tour du quartier à la recherche de sa drogue préférée, les cartes. Une fois assise autour d'une table de cartes, difficile de détourner son regard, toujours rivé sur le jeu, a fortiori le faire déplacer lui-même. Pour sa famille et ses proches, Ousmane souffre d'une pathologie. Mais pour Ousmane, il s'agit d'une passion qui lui fait oublier ses soucis. Pour des joueurs, le jeu de cartes est un bon passe-temps. Il permet de tisser des relations et faciliter l'intégration. Mais n'oublions pas, une addiction à ce jeu peut être nuisible. Maria Meiga pour l'introduction du grand dialogue de cette édition avant de clore ce journal. Bonsoir à Mariam.
Bonsoir Adama Haïdara.
De quoi il sera question aujourd'hui?
Ce soir, nous allons parler du blocus sur la route nationale 16, un blocus qui empêche les habitants de se rendre à Tombouctou et à Gao. On en parle avec trois invités, Elhaj Babadi Sandi Haïdara, notable de Tombouctou, Fatoumata Maiga de l'ONG Femmes Initiatives de paix à Gao et au téléphone Maître Chokmar Konare qui est avocat.
Merci Mariam, bon débat. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine Santé, juste après, vous pouvez suivre l'intégralité de ce débat avec Mariam et ses invités. Au Mali, la vente du poulet de chair est en pleine expansion. À Bamako, comme beaucoup de gens, notamment les jeunes, se lancent dans ce domaine, certains pour l'élevage, d'autres pour la commercialisation, et des consommateurs raffolent ces poulets de chair. Pourtant, la consommation de cette volaille doit être contrôlée en termes de qualité et de quantité, préviennent des nutritionnistes. Ce numéro du magazine Santé fait un focus sur la consommation du poulet de chair et les conséquences qui vont avec. C'est une réalisation de l'Alaïcha Wallet Infa.
Ils sont nombreux à Bamako, ceux qui raffolent le poulet de chair. En témoigne le point de vente de poulets rôtis appelés poulets télévisés qui poussent comme des champignons.
Les poulets de chair sont beaucoup plus prisés que nos poulets locaux.
Je suis venu acheter poulet de chair pour ma grand-mère, elle adore ça.
Moi, je vends le poulet sur le site d'orpaillage.
Parmi ces consommateurs, rares sont ceux qui s'assurent de la qualité sanitaire en consommant le poulet de chair. Pourtant, la consommation de ce poulet, surtout lorsqu'ils sont de mauvaise qualité, peut être source de maladies. Moustapha Touré, directeur chef de division surveillance et production sanitaire à la direction régionale du service vétérinaire de Bamako.
Le risque de la consommation de cette de la viande issue des poulets de chair par le consommateur. Il y a des personnes qui consomment ces poulets-là qui peuvent être à beaucoup de maladies, pour nous-mêmes, ce qu'on appelle la fièvre typhoïde. Chez nous, ici, c'est très fréquent. Il y a les salmonelloses, il y a les diphtéries, il y a les bronchites. Il y a beaucoup de maladies aviaires, même ce qu'on appelle la tuberculose. Il y a un type de tuberculose qu'on peut attraper à partir d'une carcasse atteinte. Et il y a beaucoup de maladies aviaires.
Dans les familles ou en campagne, l'élevage de poulets de chair est très prisé de nos jours. Bakary Sougoba est vétérinaire et directeur commercial d'une entreprise d'aviculture. Selon lui, l'élevage du poulet de chair doit respecter certaines conditions.
Les poussins, ils sont suivis pour un programme vétérinaire. Les vaccinations, les vitamines, les antistress, l'entretien, il y a beaucoup de paramètres. Il y a un système de biosécurité qui concerne l'espace avicole. L'entretien, on appelle ça la désinfection. C'est pour enlever tous les microbes autour du bâtiment. Il y a les maladies virales généralement, telles qu'il y a le gomoro, il y a le PCAVR. Il y a d'autres maladies, telles que passerolose, les diarrhées, les coccidioses.
Les poulets de chair sont produits à partir des laboratoires ou des couveuses dans des fermes. Ainsi, leur consommation comporte des risques de maladies, nous dit Dr Rosalie Sylvie Ouattara, nutritionniste diététicienne.
Je crois que vous le savez tous, c'est des poulets qui sont fabriqués, je peux dire, au laboratoire, même si c'est dans des fermes. Il faut se dire que la consommation de ces poulets à chair là peuvent être préjudice à les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cœur et éventuellement les cas de cancer. s'il y a un terrain un peu cancéreux, et ça peut être des facteurs favorisant le développement de ces cellules cancérigènes-là.
L'importation du poulet de chair est interdite au Mali, mais la pratique continue via des réseaux de trafic appelés marchés noirs. D'ailleurs, selon la FAO, le Mali a importé environ 16 000 tonnes de poulet de chair en 2020 en provenance de l'Europe et du Brésil. Une étude du Centre pour la recherche et l'action pour le développement a révélé que 62% des échantillons de poulet de chair vendus sur les marchés de Bamako contenaient des bactéries résistantes aux antibiotiques.